Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé de TV Magazine. Nous sommes partis pour 30 minutes de direct et d'interaction avec un concentré de bonne humeur, aussi parfois de l'exubérance, grâce auquel on oublie nos soucis et notre vie quotidienne sur la scène ou à la télévision. Il est humoriste, il est également comédien, mais il a également été animateur. Il peut faire le pitre au point de nous froisser les abdominaux. Des émissions chez Arthur, Gutzinger ou encore Game of Talents. Mais s'il vient nous voir aujourd'hui, c'est parce qu'il s'est aussi touché le cœur des téléspectateurs avec des sujets, on va dire, plus sérieux. C'est ce qui nous réserve ce soir dans un téléfilm qui est diffusé sur TF1 en prime time. Il invite le public à voyager dans son intimité sans jamais tomber dans le voyeurisme. Jarry, bonjour.
Eh bien, bonjour, je suis ravi d'être avec vous.
Bienvenue dans le Buzz Télé. À tes côtés, c'est le titre du téléfilm que TF1 diffuse ce soir en première partie de soirée, en prime time, comme on dit. Une fiction dans laquelle vous jouez votre propre rôle, on va y revenir, qui raconte aussi la relation que vous avez entretenue avec votre père, qui est interprété par Didier Bourdon dans cette fiction. Un lien tendu et froid qui a fini par se réchauffer lorsque votre papa est tombé malade. Avant de découvrir qui est le vrai Jarry, Anthony Lambert, comment c'est venu cette idée, de cette histoire, de vous dévoiler d'une certaine manière, ce qui est rare de la part de comédien ou d'humoriste ?
Je crois que la principale raison, c'est que je me suis dit quelques années après avoir enterré mon papa que je n'avais pas vécu
cette histoire. C'était il y a une vingtaine d'années ?
C'était, il est mort en 2004, donc il y a 20 ans. Je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça, 2004. Et du coup, je me suis dit, j'ai vécu cette histoire très très fort. Et puis souvent quand j'étais en soirée, j'en parlais à des gens et ils me disaient, il faut que tu racontes cette histoire parce qu'on a tous eu ce sentiment à un moment donné de ne pas forcément bien s'entendre avec un de nos parents, de se sentir très différent, même de se poser la question de je viens de là mais j'ai rien en commun avec les gens d'où je viens. Et du coup, je me suis dit, il faut que cette histoire, elle fasse du bien aux gens. Et puis, j'avais aussi envie de me raconter autrement, parce que les gens me disaient tout le temps, Jarry, vous êtes tout le temps positif. Oui, c'est un choix de vie, mais tout n'a pas tout le temps été positif.
Et qui est vraiment donc Anthony Lambert, je rappelle, qui est votre véritable nom.
Oui, ça change. Hein. Vous avez vu, Anthony Lambert, c'est beaucoup moins sexy. Hein. Jarry, ça envoie un peu. Anthony Lambert, on se dit, ouais.
Jarry, on peut dire d'où vient le nom Jarry.
Jarry, le nom de famille de ma maman. Que j'ai choisi à l'âge de 18 ans. Je faisais du théâtre et j'ai voulu lui faire ce plaisir parce que à mon époque, on ne pouvait pas choisir les noms de famille de nos deux parents, ce qui est possible aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Ouais.
Voilà. Et du coup, je me suis dit, je viens de deux familles différentes et je vais avoir les deux noms.
Et vous ne regrettez pas Anthony Lambert ?
Non, ça ne me manque pas trop. Je ne sais pas, ça fait un petit côté,
vintage ?
Vintage, ça sent le sapin, non ?
Ça sent la France, quoi, pour Anthony Lambert.
Non, j'adore que ça sente la France.
Ça sent le terroir.
Anthony, c'est pas très original. Et les Lambert, dans ce métier, il y en a plein.
Il y en a quelques-uns. Nous sommes en direct avec Jarry. Je rappelle, sur Figaro Live, diffusé sur lefigaro.fr, également la page YouTube de TV Mag. Est-ce que vous avez hâte de voir cette fiction ce soir ?
J'espère.
Est-ce que vous avez hâte également de le retrouver sur scène avec une tournée d'un spectacle qui s'appelle Titre ? Dites-nous tout. En attendant, je vous propose surtout de retrouver Damien Canivès pour les news médias du jour. Tradition oblige, oui. Jarry, on démarre les news par les audiences télé de la veille, voilà. Un sujet qui vous intéressera, j'imagine, demain matin.
Effectivement. Ça va vous intéresser. Bon, alors, en tout cas, sans suspense, c'est M6 qui a écrasé la concurrence grâce à la finale de la Ligue des Nations entre la France et l'Espagne. Plus de 8 millions de supporters ont applaudi la victoire des Bleus, soit 35,2% de part d'audience. C'est un score considérable et les autres chaînes tiennent évidemment dans un mouchoir de poche. Sur la deuxième marche du podium, si on prend en considération la part d'audience, c'est TF1 qui enfile la médaille d'argent avec 50 nuances de gris, une version un peu plus édulcorée que l'origine, que l'on peut regretter, c'est vrai. En tout cas, 2 millions de cinéphiles étaient au rendez-vous.
Je ne veux pas être méchant, mais dire en fil en parlant de nuances
de
gris.
Écoutez, vous voyez les jeux de mots, vous le voulez, Jarry. 9,6% de part d'audience. France 3 en file, elle aussi, la médaille de bronze, mais bon, là, c'est un peu moins sexy. Les enquêtes de Murdoch, la 14e saison, 2 épisodes inédits, 2 millions de fidèles, soit près de 9% du public. Et enfin, on termine avec cette chaîne qui se trouve au pied du podium. Il s'agit de France 2 qui misait également sur un long métrage. Cette fois-ci, ça s'appelait Le Brio avec Camélia Jordana et Daniel Auteuil. Près de 2 millions de téléspectateurs également.
Damien, tous les chiffres avec Damien, c'est.
Non, mais il le fait bien.
À Robinet.
J'espère que demain, vous aurez autant d'entrain pour annoncer un carton de à tes côtés.
Mais bien sûr, on dirait que vous étiez ici sur ce plateau pour le vendre.
Si je suis pas arrivé premier, vous faites en sorte que j'arrive.
On mentira, on essaiera.
On va réhabiller la vérité,
c'est ça. Voilà.
Le foot, c'est pas vraiment votre truc.
Ah, pas du tout. J'ai été gardien.
J'ai été gardien.
Ouais, une heure. Et pour des raisons de sécurité, on m'a sorti du terrain. Mais vraiment.
Gardien du vestiaire, pas gardien de but.
Non, gardien dans des buts. Ah, oui. Et puis quand j'ai pris la conscience que ça pouvait être extrêmement violent, J'ai dit, OK, je sors.
Vous avez botté en touche. Ça permet de faire l'image.
Pas mal.
Vos frères, vous étiez plutôt foot aussi. Également la chasse, c'est ça, hein?
Foot, chasseur, pêcheur, oui.
Ouais, pêcheur. Comment on fait accepter sa différence par rapport un peu dans l'histoire de votre famille, hein, et vos frères?
Alors, moi, la chance que j'ai eue, c'est que dans la réalité, dans mes frères ont totalement accepté mon homosexualité, ont totalement accepté cette sensibilité. Là, dans le film, j'ai fait des frères un peu plus...
Dur. Ouais.
Plus dur, ouais. Plus obscur pour les biens de la fiction. Mais en fait, je crois que c'était une évidence depuis que j'étais petit. Ma mère encore me disait il y a quelques jours qu'apparemment je lui volais ses chaussures à talons. Donc j'ai appris deux choses. C'est que ma mère avait des chaussures à talons. Et deux, que je lui empruntais de temps en temps quand j'étais petit. Je crois qu'en fait, moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille où on nous a laissé devenir et être ce qu'on devait être. Et ça, c'est super. Voilà, ma relation avec mon père était plus compliquée.
On va y revenir à travers la fiction. On poursuit ces infos médias avec Delphine Vespizer qui a poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux parce qu'elle s'est faite agresser.
Effectivement, l'ancienne Miss France a révélé sur son compte Instagram qu'un voleur lui avait dérobé sa montre alors qu'elle se trouvait samedi dans les rues de Mulhouse en Alsace. Voici ce qu'elle a ajouté. « Marre de ce pays, que fait la police? Nous avons tourné une heure pour retrouver mon agresseur et nous n'avons pas vu une seule patrouille de police pendant tout ce temps. » Fin de citation. Alors, il n'en fallait pas plus pour susciter la colère d'Alliance Police Nationale Grand Est. Hein, dans un communiqué de presse, le syndicat regrette le message de Delphine Vespizer qui jette l'opprobre sur l'ensemble des agents et demande des excuses publiques de la part de l'ancienne reine de beauté.
Vous n'avez pas une montre de valeur sur vous, Jarry?
Non, je n'ai pas de montre de valeur, mais je suis un peu surpris que Delphine ait fait ça.
Ah bon,
je trouve que ça ne lui ressemble pas. Non, ça ne lui ressemble pas beaucoup. Elle devait être triste, ouais. Ça devait être un bien qui lui tient.
Bah oui.
C'est évident que la police ne peut pas être derrière chaque citoyen, sinon... Ouais. Bah d'abord, ce serait très gênant, hein, t'imagines?
On se sentirait un peu épié, quoi.
Voilà, ce serait vraiment un peu voilà. Voilà, après, non, je suis un peu surpris de ça, ouais. Petite choupette.
Elle a peut-être réagi sur le compte de l'émotion, on va dire.
Voilà, c'est ça.
Au coup de l'émotion.
Allez, on termine ces infos avec Pierre Arditi, qui était très enfant le samedi soir, s'il était l'invité de Laurent Ruquier.
Lui aussi, il était un peu énervé, vous allez voir, l'animateur prenait les rênes d'un nouveau numéro dont on est en direct sur France 2, l'occasion pour lui de recevoir Cyril Hanouna afin d'évoquer la sortie du livre qu'il a écrit avec le journaliste Christophe Barbier, intitulé « Ce que m'ont dit les Français ». Le chef d'orchestre de « Touche pas à mon poste » s'est justifié sur la présence de Jean Messia dans son talk show. L'ancien membre du Rassemblement National fait très souvent partie des intervenants qui se trouvent autour de sa table, le don d'ailleurs d'énerver Pierre Arditi. Le comédien estime que les hommes politiques ne devraient pas aller dans des talk-shows mais résoudre les problèmes des Français afin qu'ils aillent mieux. Ça m'exaspère au dernier degré, j'en ai marre de ça. On a les héros qu'on mérite, on finira par créer des générations qui finiront par prendre un spot publicitaire pour une tragédie de Racine. Voilà ce qu'il a déclaré.
Belle citation. Les politiques dans les émissions de divertissement, c'est... Ça vous énerve, ça vous chagrine pas, c'est... Pourquoi pas avec des humoristes d'ailleurs?
Ouais, ben voilà, je vais aller dans l'hémicycle, hein, et puis on va aller faire une choré. Non, je trouve que je rejoins un petit peu ce que dit M. Arditi, je crois qu'il y a un endroit pour chaque chose, et qu'un homme politique, son travail, c'est d'être sur le terrain et de répondre aux attentes des Français, et peut-être moins d'être dans des émissions pour nous faire rire. En tout cas, moi, j'attends pas d'un homme politique qui me fasse rire, même si très souvent... En l'écoutant, je ris. Non, je crois que c'est deux choses. Et puis nous aussi, c'est important que nous, les artistes, on reste à notre place et qu'on ne fasse pas de politique. Voilà, chaque chose a son domaine de compétence. Voilà. Et après, moi, je ne connais pas M. Messia. Enfin, je l'ai vu une fois, voilà. Donc, il était homme politique, ce monsieur.
Effectivement, il l'est toujours, plus ou moins.
Il a quitté le parti.
Il a quitté le Rassemblement.
Il a quitté le parti ou on lui a demandé de partir?
C'est la bonne question.
On lui posera la question.
En tout cas, dans les deux cas, c'est une bonne nouvelle.
Merci. Merci Damien pour ces news. Et tout de suite, l'interview du Buzz Télé avec Jarry.
Vieux truc.
À tes côtés, donc ce lundi, en prime time sur TF1, hein, vous endossez votre propre rôle, même si en effet il y a un peu de fiction, hein, vous allez nous l'expliquer. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé finalement à mettre en lumière votre histoire de famille? Parce qu'en général, il y a une part d'intimité qu'on essaye de conserver. Souvent, parfois, on le fait à travers des livres, hein, des autobiographies. Pourquoi une fiction?
D'abord parce que j'avais envie de jouer un rôle qui m'éloigne du Jarry qu'on connaît de la scène. J'avais envie de proposer autre chose. Aujourd'hui, les quelques propositions que j'ai de fiction sont toujours autour de mon personnage un petit peu d'humoriste. Et j'avais envie de dire aux gens d'abord que je suis comédien, que je suis capable d'interpréter des choses qui sont moins drôle, moins excentrique. Donc j'avais envie de m'offrir ce rôle-là. J'avais envie de dire aussi aux gens que quel que soit l'endroit d'où l'on vient, eh bien on devient autre chose si on le décide, mais que tout est possible et que cet endroit où on a grandi nous aide à nous forger, à être profondément l'adulte avec des valeurs aujourd'hui que je défends encore. Et puis moi, je suis très fier de mon village. Je suis très fier de ces gens qui se lèvent avec le soleil pour faire du vin ou pour travailler dans les champs. Je suis très fier de ces valeurs-là qui sont le travail, qui sont le vivre ensemble aussi. J'avais envie de parler de la campagne dans un film, mais avec des lettres de noblesse. Souvent, on nous montre une France, une campagne un peu beauf, un peu arriérée, ce qui n'est pas du tout la réalité. Et moi, je crois que j'avais à cœur d'ailleurs qu'on tourne dans mon village, de faire tourner les gens de mon village et de leur dire, on s'en fout de savoir si vous êtes acteur ou pas, mais juste de les mettre en lumière. J'avais envie de tout ça.
Et c'est difficile de se mettre à nu, d'une certaine manière, de dévoiler cette intimité dans votre propre personnage, quand même.
Je crois que je dévoile juste, j'envoie de la force aux gens. Dans mon histoire, qu'est-ce que je dis ? Je dis que pendant des années, je ne me suis pas senti accepté par mon père et que les 2 derniers mois de sa vie, parce qu'il était condamné, on s'est trouvé, on s'est retrouvé, on s'est aimé, on est devenu fusionnel et que cet homme à qui j'en ai voulu pendant des années, m'a donné la plus belle chose, il m'a donné sa mort. Et grâce à ça, je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui. Donc j'ai envie de dire aux gens, ne vous inquiétez pas, l'histoire, elle est bien faite. Quelles que soient les choses que vous vivez avec vos géniteurs, il y a un moment donné où vous aurez cet espace,
on se retrouve.
Vous le prenez, voilà, on se retrouve et on se dit les choses, et les choses qui nous font du bien et qui donnent sens à nos vies.
Damien, une première question
oui,
ou remarque de la part des internautes
nous
qui nous suivent.
Nous sommes en direct sur la page YouTube de TV Magazine et sur lefigaro.fr. Vous pouvez poser toutes vos questions à Jarry. Alors, Sylvie, qui a hâte de voir votre téléfilm et de vous voir physiquement au théâtre si vous venez au Mans, d'ailleurs. Vous savez si vous venez au Mans ou pas ?
Alors non, je ne viens pas au Mans, mais je viens à Angers,
Il faudra aller à Angers, il faudra prendre la voiture. On va prendre une question d'Alexandre qui aimerait savoir pourquoi vous avez choisi Didier Bourdon et Marie-Anne Chazelle pour jouer vos parents.
Didier Bourdon, parce que c'est un comédien extraordinaire, que physiquement, il ressemble beaucoup à mon papa, que c'est le monsieur qui m'a mis le pied à l'étrier de ce métier aussi. Donc, j'avais envie que le rôle qu'il a eu sans le vouloir d'être mon père dans ce métier, le soit dans la fiction. Ouais. Et il a dit oui tout de suite. J'étais évidemment bouleversé de ça parce que j'avais aussi envie de m'entourer d'acteurs qui soient bienveillants. Je les emmenais dans mon intimité, dans mon village. Et Marie-Anne Chazelle, parce que c'est une comédienne extraordinaire et qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'on la voie beaucoup plus. J'avais envie d'être entouré d'abord de gens drôles au service d'une dramédie. Parce que je crois qu'on nous propose tout le temps des rôles drôles, comme si on n'avait pas le droit ni accès à quelque chose de plus sage, de plus maîtrisé. Donc je me suis dit, je ne vais pas reproduire ce qui me fait moi souffrir. Je vais aller prendre ces gens-là et tous les trois, on va apporter une belle histoire humaine.
Et est-ce que ça ne vous fait pas souffrir de donner la réplique à un acteur qui ressemble physiquement à votre père ? Est-ce qu'à un moment donné, les deux personnages ne finissent pas par
se confondre ? Mais si, il y a plein de moments où j'étais troublé. D'abord parce que quand tu tournes dans ton village, ton père est enterré à moins de 200 mètres de toutes les scènes du film. Donc de toute façon, tu ne penses qu'à ça. Les gens du village qui jouent dans le film, à chaque fois, ils me disaient « Ah là là, mais… »
Ils connaissent votre histoire, donc.
Ben oui, ils connaissent mon histoire. Ils me disent « Ah là là, mais c'est tellement ton père. » Et les gens sont émus. Mais évidemment, mais moi, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de nos histoires. Il faut s'en servir, s'en nourrir. Et puis surtout, elles font ce qu'on est aujourd'hui. Et moi, je ne suis pas que le mec excentrique que vous avez vu ou hypnotisé en poulet ou dans les avions de chasse. Le choix d'être quelqu'un de positif, je l'ai fait parce que je sais ce que c'est quand les choses s'arrêtent. Et quand mon père est mort, je me suis dit « Plus jamais ». Je vais voir ce que je n'ai pas. Je vais être positif à la vie. Je vais voir ce que j'ai, la chance que j'ai d'être en bonne santé, etc. Et c'est ça que j'ai envie de dire aux gens. C'est n'ayez pas peur de la fin de vie parce que ça peut être aussi extrêmement beau.
Alors on l'a dit, c'est un téléfilm. C'est pas un documentaire. Hein,
pas
très,
du tout.
Très clairement, quelle est la part de fiction et de réalité ?
Alors, la part de réalité, c'est juste l'histoire du père et du fils. Après, toute la dimension sur la famille, les vignes, etc., c'est que fictionné. D'abord, dans la vraie vie, j'ai 3 frères, j'en ai pas que 2. Terence Tell, qui joue ce garçon qui me tente, n'a jamais existé. Bien dommage. J'aurais bien aimé.
Mais est-ce que l'histoire est vraie? Est-ce que vous avez vraiment charmé le meilleur ami de votre compagne de l'époque?
Oui.
Ah oui, quand même, ça c'est vrai.
Voilà, je suis resté dans le cercle familial. Mais c'était pas Terrence, dommage. Et il ne portait pas de slip à l'époque, on était déjà passé au boxer. C'était un peu moins sexy, ah, oui, je l'avoue. Enfin, c'était un cri du cœur que je lance.
Oui.
C'est un détail important.
Mais le slip, maintenant vous portez un slip, tout le monde vous dit c'est ringard. Alors quand même, le slip, ça peut être très joli.
Ça dépend qui le porte, vous savez, c'est toujours le problème.
C'est bien ça le problème.
Avant de lancer ce projet et de tourner hein, cette fiction, vous avez demandé l'autorisation à votre famille ou pas du tout?
Mais non.
Non.
Non, je n'ai pas demandé l'autorisation à ma famille parce que pour moi...
Parce que vous la mettez en scène d'une certaine manière.
Oui, je la mets en scène.
Même s'il y a de la fiction.
Oui. Mais en fait, je pense que mon histoire, elle concerne 99,9% des familles françaises. Je pense que là, je parle de ma famille parce que c'est mon père qui a eu cette maladie, mais je pense que le cancer aujourd'hui, malheureusement, il est dans quasiment tous les foyers, dans toutes les familles. Je pense qu'aujourd'hui, ce sentiment de ne pas être exactement au bon endroit, au bon moment, on l'a tous traversé une fois. Et je pense qu'aujourd'hui, on a l'impression que pour réussir, pour devenir, il faut être né à Paris. Ben non. Moi, je suis né à 400 km de Paris, dans un village de 700 habitants. Et il n'y avait pas d'artiste, il n'y avait pas de théâtre, il n'y avait rien qui aurait pu me convaincre que les choses étaient possibles. Et pourtant, j'y ai cru. Et la chance que j'ai eue dans ma vie, c'est que mon père, quand il est parti, ce moment où les choses s'arrêtent, je me suis dit, OK, ça, c'est la vérité. Ça, c'est la réalité. Donc maintenant, tu vas arrêter d'avoir peur et tu vas prendre ton courage à la main et au pire, tu auras essayé.
La première personne qui vous a mis le pied à l'étrier, après la mort de votre père?
La toute première personne, c'est un monsieur qui m'a pris dans sa compagnie de théâtre, qui s'appelle Bernard Grosjean, qui a cru en moi, avec qui j'ai fait 10 ans de théâtre forum, qui est un monsieur incroyable. Voilà, parce que moi, je n'avais rien fait dans ma vie. Hein. Moi, je m'étais juste entraîné à mourir au ralenti dans ma chambre, mais je n'avais aucune expérience théâtrale. Et je suis arrivé, j'ai passé ce casting, il m'a dit, il y a beaucoup de boulot, mais je sens qu'il y a un truc chez toi. Et en fait, tous les gens qui m'ont tendu la main, ça a toujours été ça. Il me disait, on sent un truc chez toi. Il y a eu Bernard Grosjean. Après, j'ai rencontré Didier Bourdon sur son film Bambou. Après, j'ai rencontré Stéphane Bern, Arthur. Puis les choses, elles se sont faites comme ça. Mais moi, j'ai l'impression, quand les gens, des fois, me disent, ah, vous avez de la chance. Non, non. J'ai l'impression de tout le temps avoir travaillé comme un fou pour pouvoir obtenir cette visibilité-là.
Il n'y a pas de secret.
Damien. Allez, on va prendre une question de Chris. Si votre papa avait encore été de ce monde, quel regard aurait-il posé sur votre carrière?
Ça, c'est cette question, elle est compliquée pour moi parce que je ne sais pas franchement ce qu'il en aurait pensé. Je pense qu'il m'aurait dit « t'es un Lambert ». Dans le sens où tu avais un objectif et tu as été jusqu'au bout. Et mon père, il nous disait tout le temps « quand tu commences quelque chose chez nous, tu vas jusqu'au bout ». Quand j'ai commencé le judo pour lui faire plaisir, alors que j'avais horreur de ça, tellement ça faisait mal, parce qu'en plus je me prenais des tôles, je suis allé jusqu'au bout, parce que chez nous, on nous enseigne que quand tu commences, tu vas jusqu'au bout. Donc je pense qu'il m'aurait dit, voilà, je suis fier de toi parce que tu es allé jusqu'au bout de ton projet.
Il vous a connu, Jarry, tel que vous l'êtes aujourd'hui?
Non.
Non. Et ça, c'est l'un de vos grands regrets, j'imagine?
Voilà.
Et pourquoi il vous a choisi, vous, au sein de votre famille, par rapport à vos frères, pour l'accompagner justement jusqu'à la fin, comme vous dites?
Je pense qu'il m'a choisi pour deux raisons. Je pense qu'il m'a choisi parce qu'il savait qu'on n'avait jamais eu la relation qu'il a eue avec mes autres frères et qu'il s'est dit « je dois rattraper le temps perdu ». C'est la première chose. Et je pense qu'il savait qu'au fond de lui, le fait que moi, depuis que je suis né, j'ai soutenu mes choix, le fait que j'étais contre la chasse, que j'étais contre la pêche, que je trouvais que... Voilà, il ramenait du gibier à la maison, j'essayais de le réanimer, c'était n'importe quoi. Il savait que j'étais quelqu'un de fort. Il savait que j'allais pouvoir tenir, que j'allais pouvoir l'accompagner jusqu'à la fin.
Mais vous étiez en lutte quand même, relativement, d'après ce que vous dites, au quotidien.
Ouais, mais oui, parce que je crois que quand on décide d'être au cœur de sa vie et qu'on ne comprend pas des choses qui viennent de nos parents, on se dit, mais attends, surtout que moi, tous mes potes disaient, oh, moi avec mon père, c'est génial, on a les mêmes passions et tout. Moi, je rêvais d'être Saria Bonali, je voulais être danseur et tout. Mon père, il me faisait Saria Bonali, quoi. Qui, comment? Sauf qu'il ne m'a jamais empêché. Et moi, plus il ne s'intéressait pas, plus je montais le curseur et inversement. C'est pour ça que je dis, et maintenant que je suis devenu père, je vois bien que j'ai envie que mes enfants deviennent quelque chose et que des fois, ils ont des choix qui sont différents des miens. Et je me rends compte à quel point c'est compliqué.
Du coup, vous n'avez pas du tout la même relation, on imagine?
Non.
que celle que vous avez entretenue avec votre père.
Bah non, pas du tout. Là, la relation que j'ai avec mes enfants, c'est mes enfants ils me disent tout le temps, papa, tu nous dis tout le temps que tu nous aimes. Bah si, ouais.
Damien.
Allez, on va prendre une question de Tristan sur Twitter qui aimerait savoir, qui s'interroge. Qui est le vrai Jarry ? Est-ce que c'est celui que l'on voit sur scène ou bien celui que l'on verra ce soir dans le téléfilm ?
C'est dingue cette question de savoir la vérité.
Mettre dans des cases.
Non, de nous mettre dans des cases à chaque fois, c'est pareil. Avant, quand j'ai dit que j'étais homosexuel, j'avais toujours la question, mais est-ce que vous avez quand même connu les femmes ? Mais, alors, les choses, pour faire le sens simple, Jarry, Anthony, c'est la même personne, sauf que on met la lumière à des endroits de moi différents. C'est-à-dire que si tu viens me voir sur un spectacle humoristique, le minimum que je puisse faire, c'est d'être drôle. Là, j'annonce une dramédie. Donc, on va être entre la comédie et quelque chose de plus sensible. Mais ce que j'aimerais que les gens comprennent, et je parle pour plein d'artistes, c'est qu'on est un arc-en-ciel émotionnel de plein de choses. Et puis, on décide, en fonction de nos activités, de montrer des choses de nous. Moi, je n'y crois pas que quelqu'un soit à 100% gentil et naïf. Non, il y a des moments où il est noir, il y a des moments où il doute, il y a des moments où il a peur. Je suis tout ça. Sauf que le choix que moi, j'ai fait dans ma vie, c'est d'être le plus heureux. Parce que je sais que la vie, c'est terrible, je le répète tout le temps, mais quand la vie, elle s'arrête, il y a une espèce de réalisme. Parce que moi, mon papa, il est mort. Vraiment, j'étais là. Quand ce moment arrive, vous vous dites, ah ouais. En fait, toutes les angoisses que j'ai eues, tous les doutes, toutes les personnes, toutes les engueulades, ça ne sert à rien. Parce que quand ça s'arrête,
il n'y a plus rien derrière.
Fin du game.
Les compteurs à zéro.
Exactement.
Vous nous en avez parlé tout à l'heure, hein, des habitants à Rabelais-sur-Layon.
Ouais.
Donc c'est près d'Angers où vous avez donc grandi, mais où surtout la fiction a été tournée. Vous êtes une star maintenant là-bas ?
Bon, de toute façon, star, non, pas du tout. Parce que alors, tu sais, les gens de chez nous... les stars, c'est les pompiers, c'est ces gens qui sauvent des vies. Ouais. Non, je crois qu'il y a une fierté. D'abord, une fierté de mettre en lumière une partie de la France. Enfin, l'Anjou, on n'en parle jamais, à part pour de mauvaises raisons, que ce soit pour cette histoire avec Christine Taubira et cette petite fille qui lui avait dit « mange des bananes, ça vient d'Angers ouais. ». Made in Angers. Ouais. Le réseau de pédophiles qui vient d'Angers, là, avec le fameux procès ouais. Made in Angers. Ouais. Voilà.
Il y a quand même les bons vins. Ouais.
Oui, les bons vins. Mais voilà, les vins d'Anjou, ça, c'est pour les gens qui sont connaisseurs. Nous, on va souvent parler du Bordeaux, on va souvent parler de ces vins-là. Mais chez nous, on a des vins incroyables qui sont le Coteau du Layon, le Quart de Chaume. Et surtout, un savoir-faire, une manière de vivre. Moi, je suis très fier de ma région. Et je voulais absolument qu'il soit dans le film. Et puis, qu'il soit dans le film, mais qu'il soit fier de ce qu'on montre.
Et vous pourriez finir votre vie ?
En Anjou ?
Oui.
Alors, pas du tout.
Pas du tout.
Alors, non, parce que je suis un petit peu contrarié. Parce que d'abord, pour plein de raisons...
Trop de souvenirs ?
Là, la région des Pays de la Loire, de l'Anjou, ne m'a pas du tout aidé sur le film. Et j'ai trouvé ça un peu étonnant, alors que d'autres régions nous avaient sollicité pour qu'on vienne tourner chez elles. Et puis aussi parce qu'il y a un gros pôle Manif pour tous à Angers, d'ailleurs, qui ne s'est toujours pas prononcé sur ces 216 000 victimes recensées depuis le rapport. Ça serait peut-être bien qu'ils se prononcent quand même, parce que je leur rappelle que qui ne dit rien consent.
Du coup, vous n'êtes pas le bienvenu chez vous, en fait, c'est ce que vous êtes en train de dire.
Si, sur l'ensemble, mais en fait, je trouve que ma région, elle est beaucoup plus noble que tout ce qu'on entend parler dans les médias. Voilà. Moi, je sais que les Angevins, les gens du 49, ce sont des gens qui sont d'abord qui vivent ensemble. Qui sont amoureux de la terre et qui essaient de vivre ensemble. Donc,
et c'est une belle région qu'on invite à découvrir d'ailleurs.
Exactement, le château de la Loire, c'est magnifique.
C'est vrai.
Allez faire du canoë comme ça, hop, puis on découvre.
Vous faites très bien le canoë.
C'est un métier.
Une vraie passion pagaie.
Vous voyez, vous faites du sport quand vous le voulez.
Allez,
on va prendre une question de Marine sur Twitter qui aimerait savoir quel est le plus grand regret que vous avez dans la relation avec votre papa. Est-ce que vous avez des regrets d'ailleurs ?
Aujourd'hui, j'ai aucun regret. Ce que je dis, si l'histoire devait se répéter, j'aimerais qu'elle soit exactement la même. Je pense que, mine de rien, mon père, il a vu que j'étais plus sensible que les autres enfants et qu'il s'est dit, il faut que je le prépare à cette réalité. Et je pense qu'il a bien fait. Parce qu'aujourd'hui, des fois, je traverse des choses où les gens me disent, mais ça ne t'affecte pas. Et pas du tout. Je pense qu'il m'a bien préparé. Non, mon seul regret, peut-être, c'est de
ne pas l'avoir vu plus tôt ?
Non, qui ne m'ait pas vu sur scène. Quoi. Ouais. Je pense que pour tout artiste, quand vous faites un Olympia, vous pensez forcément aux gens qui ne sont pas là.
Et ça, ça vous motive quand vous montez sur scène et que vous pensez à votre papa?
Alors, j'évite d'y penser quand je monte sur scène. Mais par exemple, là, je vais être à l'Olympia les 26 et 27 octobre. Je sais que ça va être deux jours très particuliers pour moi.
Compliqué, donc.
Ouais, c'est compliqué parce que c'est des salles mythiques, c'est des salles où, quand vous êtes petit, vous vous dites, si un jour je vais là-bas, ça veut dire que quelque part, j'aurais réussi un petit quelque chose. Et il ne sera pas là, il ne m'aura jamais vu jouer, ne serait-ce que jouer, j'aurais voulu qu'il me voie jouer. Mais je le sens.
Ta présence.
Oui, de toute façon, c'est ce qu'on se dit. Hein. Sinon, c'est trop triste, non?
Oui, ouais. Bien sûr, c'est vrai.
Alors, s'il y a un petit courant d'air, je fais « Ah, t'es là !»« Salut, t'as pris ta place
?» est-ce que ce rôle vous a donné envie de jouer d'autres rôles dramatiques?
Mais oui. Mais oui, évidemment, j'ai l'impression qu'on est plein de comédiens à dire ça, mais j'aimerais qu'on vienne me chercher pour d'autres choses. Moi, ce que j'aime, c'est d'être utilisé, c'est d'exister dans le regard d'un réalisateur, c'est qu'on me dise « ça, c'est trop Jarry, ça ne m'intéresse pas, je veux ça ». C'est ça que j'aime. Moi, j'ai envie qu'on m'utilise, j'ai envie d'être au service d'un film, d'une émotion, d'une histoire. J'ai envie de jouer un mec violent, j'ai envie de jouer un mari avec ses enfants, j'ai envie de jouer plein de choses. Je ne vais pas jouer toute ma vie des comptables homosexuels qui se font violer.
Et on ne vient pas souvent vous chercher uniquement comme l'humoriste, Jarry l'humoriste, et pas forcément le comédien dont vous parlez.
Ben non, on vient souvent me chercher pour jouer l'extravagance, le mec qui crie. Et encore, je serais prêt à le faire si c'était pour un rôle qu'on voit un peu plus de 2 minutes.
La densité.
Ouais, avec de la densité, mais moi je m'étonne encore en 2021 qu'on soit obligé d'expliquer que quelqu'un qui fait rire est capable de faire autre chose que rire. C'est quand même... Enfin, si les gens de ce métier ne l'ont pas compris...
Damien.
Allez, une question de Thibaut, alors qui n'a rien à voir avec votre fiction, mais qui aimerait avoir quelques petits biscuits sur Mask Singer, parce qu'il paraît que vous faites partie du quatuor d'enquêteurs. Toujours.
Ah bon, bah, alors, ça, c'est incroyable.
On m'a donné cette info.
Ces gens à côté de moi.
C'est incroyable. La troisième saison arrive très prochainement, fin d'année, a priori. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Quels souvenirs déjà vous gardez de ce tournage qui est toujours un petit peu mouvementé, on va dire, entre les enquêteurs?
Super saison. Ouais. Super saison. Alors là, je pense que c'est la saison où on s'est le plus lâché.
Ah oui?
Avec Angoune, Alessandra Sublet et Kev Adams. Je pense que même la prod est venue nous voir en nous disant calmez-vous.
Faut vous calmer.
Ouais. Faut vous calmer. J'ai des souvenirs d'Alessandra Sublet sur le desk.
Ah oui?
Kev, où on se chamaille. On était très en forme. Il y a des très jolis moments. Des costumes cette année. Ils sont partis
incroyable.
dans des. Ouais. Là, ils ont fumé des trucs.
Et la mécanique reste
des trucs. Ouais, parce que là, il y a des costumes, fallait quand même, ouais, y penser.
Et la mécanique reste toujours la même, c'est-à-dire qu'on a les magnétos de présentation, ouais. Vous qui essayez de
deviner.
Il y a
plein de surprises cette année. Il y a plein de, comment on dit, de nouveautés dans le jeu. Et là, je pense que vous aimeriez avoir une petite nouveauté.
Évidemment.
Allez, on est entre nous.
Il y a de la star internationale à profusion.
Non.
Et je peux vous dire que j'ai rencontré... Une des stars internationales, c'était vraiment, ça faisait partie des gens que j'avais très très envie de croiser dans ma vie.
C'est une actrice?
Allô?
C'est une comédienne?
Allô?
Je ne capte plus, Itinéris. Vous êtes
né.
Mask Singer, vous avez fait également d'autres émissions pour TF1. La fiction sur TF1, c'est à la vie et à la mort aujourd'hui?
Non. Non, mais alors, c'est drôle parce que souvent les gens pensent que j'ai un contrat avec TF1 et que. Et en fait, pas du tout. On est liés d'aucune sorte avec TF1.
C'est des hasards de calendrier entre l'animation, le comédien.
Oui, après, vous savez, moi je viens de France 2, j'ai commencé à France 2 avec Jérémy Michalak à l'époque, face à la bande, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette émission.
Oui, tout à fait.
Vous n'étiez pas né. Vous n'étiez pas né. Après, j'ai fait Stéphane Bern pendant 2 ans, les après-midi. Puis après, je rencontre Arthur qui m'a dit viens travailler avec moi. J'ai travaillé avec lui pendant 4-5 ans. Mais aujourd'hui, j'ai surtout envie de faire des choses qui ont du sens. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, j'arrive à un âge aussi, à 44 ans, où j'ai besoin peut-être d'être en accord avec ce que je fais. C'est-à-dire que là, j'ai fait des choses où des fois, je me suis dit « Pourquoi t'as fait ça ?»«
C'est pas moi, entre guillemets. »
Bah, non, mais ouais. Mais vous savez, moi, je suis un gamin de 7 ans. Hein. Vous me mettez dans une salle de jeu. Moi, je joue à tous les jeux. Puis à la fin, je vais vous dire « Bon, ça, c'était pas super. » Mais parce que j'aime, en fait, ça. Moi, j'ai toujours peur de m'ennuyer. C'est terrible, c'est comme quand vous me mettez 4 gâteaux, vous me dites choisissez, je fais pourquoi je peux choisir? Je peux manger les 4.
Vous êtes gourmand aussi.
Mais non, mais c'est ça en fait. Le choix, c'est quand même créer de la frustration. Je n'ai pas du tout envie d'être frustré.
C'est vrai.
C'est dit.
Mais non, mais c'est pour ça que je suis toujours en admiration de ces gens qui ont toute la vie la même personne à côté d'eux. Oui.
toute la vie à côté d'eux,
c'était bien. Oui, je trouve que. Enfin, non, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Voilà.
Ah vous nous enfoncer.
Ouais, je reviens.
Aïe, 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 aïe.
On a perdu Jarry. C'est l'occasion, bah, puisque vous avez été sincère jusqu'ici, de faire notre dernière rubrique en toute franchise.
Ah!
Évidemment, vous devez répondre avec le plus de sincérité possible, comme vous l'avez fait depuis le début.
Je n'ai jamais menti jusqu'ici, monsieur
rendez-vous.
Le juge. Jamais.
Allez, le plus beau souvenir de votre carrière.
Je pense mon premier Olympia.
Pourquoi ?
Parce que l'Olympia, c'est pour tout artiste, ça reste une salle mythique et il se passe vraiment quelque chose sur cette scène. Je pense que c'est un de mes plus beaux souvenirs.
Et votre pire souvenir ?
Mon pire souvenir, c'est sur scène ?
Oui, sur scène. Ou dans votre carrière en général ?
Dans ma carrière, je pense que je ne devrais pas dire ça, mais j'ai fait l'émission Les Jupons de l'Histoire avec Christine Bravo, que j'adore, oui. Christine, où j'étais habillé en bouffon et je ne disais absolument rien, je n'avais absolument rien à faire. Et il repasse toujours le même extrait où je me vois manger une saucisse et je me dis, c'est pas possible de faire des choses.
C'est un peu la plante verte, quoi, une émission.
J'étais carrément la plante verte, mais en plus qui carnivore, c'est-à-dire qui mange une saucisse. C'est-à-dire, j'aurais pu manger plein d'autres choses, mais là, c'est une saucisse. Et ça me restera jusqu'à la fin de ma vie.
Sur l'estomac.
En bouffon, entre manger une saucisse.
Vous savez que je la connaissais pas, cette séquence-là. Et bien, rien que pour vous, j'irai la regarder juste après l'interview.
C'est à ce moment-là que je parle. Voilà. Non, mais c'est horrible.
L'avantage des réseaux sociaux et de l'Internet, on peut les revoir. De vieilles images. Est-ce que vous avez une manie, un tic, voire un toc avant d'entrer sur scène ou lors d'un plateau de tournage ?
Tout le temps.
Tout le temps ?
Tout le temps, je prends les gens par la main et on fait un cercle d'énergie. Voilà, et on applaudit. Ouais. Et je dois toujours arriver sur scène sur un pas pair.
Ah oui.
C'est-à-dire que mon pied droit doit arriver en pair, sinon je ressors et je refais.
Ça peut durer longtemps comme ça ?
Non, mais je prévois avant. Je fais toujours le circuit avant.
Et sur les plateaux de tournage, c'est la même chose ou vous arrivez à vous en débarrasser ?
Non, non. Non, sur le plateau de tournage, je fais souvent un chabit au réalisateur. Non, je déconne, c'était pour la blague. C'est ça drôle. On va tourner ?
C'est ça que les plans penchent parfois sur vos émissions, j'ai remarqué un petit peu, c'est un peu compliqué.
N'importe quoi.
Allez, Damien, on enchaîne.
Si vous aviez le pouvoir de faire renaître une seule personne célèbre, vous choisiriez qui ?
Je pense Simone Veil.
Ah, pourquoi ?
Parce que je pense qu'aujourd'hui, elle est en danger. On essaie de revenir sur des droits, sur des libertés qu'elle a obtenues. Et moi, je ne comprends pas, en fait, que des gens manifestent, perdent du temps sur des droits qu'on a obtenus. Aujourd'hui, on doit manifester pour obtenir plus de droits, pas pour nous. Et ça, je pense qu'on ne respecte pas la mémoire de cette femme incroyable que j'aime profondément et qui était complètement précurseur par rapport à l'époque dans laquelle elle était.
Pour vous, on ne devrait pas débattre du droit à l'IVG, par exemple ?
Mais non, mais pas du tout. Mais enfin, mais qui sont ces gens ? Mais où vivent-ils, ces gens, pour revenir sur le droit à l'IVG ? Non, mais sans déconner. Ils savent ce que c'est d'élever un enfant, ces gens. Les femmes, elles ont quand même le droit de leur corps, elles ont le droit de choisir en fonction de ce qui leur arrivait, si oui ou non, elles ont envie de vivre avec un enfant. Et moi, ça me met très en colère, en fait, cet irrespect. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ah non, ça m'énerve vraiment, hein. Et là, vous voyez, encore quelques semaines, je suis tombé sur une manifestation dans Paris. Et moi, qui suis naïf, je vois des manifestants, je vois des CRS. Je dis, tiens, je vais saluer les CRS. Pourquoi ? Je dis ça. Et là, c'est une manif contre l'IVG.
Ah oui.
Et là, les gens m'ont insulté et tout. Mais je dis, mais enfin, et vous, vous
dites... Parce qu'ils vous ont reconnu ?
Oui, ils m'ont reconnu. Ils ont dit, regarde, c'est l'autre guignol, là, qui a ses enfants, espèce de... Et moi, je me suis dit, mais comment ces gens qui prônent l'amour... peuvent être autant dans la haine. Juste une réponse.
Le message est passé. Si vous n'aviez pas été animateur, parce que vous avez également dans vos heures d'animation à la télé, comédien ou humoriste, vous auriez fait quel métier ?
J'aurais adoré être urgentiste ou médecin sans frontières. Après, le problème, c'est que j'ai peur du sang.
Oui, c'est pas possible.
C'est un souci.
C'est un vrai problème, mais j'aurais aimé faire un métier pour aider les gens, parce que je crois qu'on apprend beaucoup en donnant et qu'on reçoit... On reçoit aussi énormément. Donc, j'aurais voulu faire un métier comme ça.
Alors, médecin.
Médecin, urgentiste ou... Ouais.
Alors, justement, un métier qui aide les autres, c'est président de la République. Les élections se tiennent dans quelques mois. Si demain, vous êtes élu à la tête de l'État, par exemple, quelle est la première décision que vous prenez lorsque vous arrivez à l'Élysée ?
Je vire tous les hypocrites qui font de la politique.
Oula, vous allez...
Il n'y a pas resté grand monde.
Vous n'aurez pas beaucoup de collaborateurs.
Non, mais... Je ne sais pas quoi vous dire, la politique pour moi c'est X-Files, vous voyez ?
Ah bon ?
Je ne comprends rien en fait à ces gens qui disent un jour gris, le lendemain bleu. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas.
Donc vous ne vous engagerez jamais en politique?
Non. Oh non.
Et vous votez quand même. Vous allez voter.
Ah oui, mais je vote tout le temps. C'est important. Moi, mon seul parti, c'est le parti de qu'est-ce qui fait du bien au plus grand nombre. C'est la seule question qu'on devrait se poser. Il faut arrêter cette espèce d'égocentrisme, cet individualisme, ce communautarisme. Il faut qu'on vive ensemble. Je le dis dans mon spectacle. Il faut qu'on vive ensemble, en fait. C'est ça le défi de demain. On n'est pas obligé d'être d'accord ensemble. Je suis sûr que vous faites des choses et que je trouve ça pas bien. Et pourtant, on arrive à vivre
ensemble. Pourtant, j'ai rien dit encore.
Non, je me projette.
Qu'est-ce qui vous déplaît le plus dans votre caractère et dans votre apparence physique?
Alors, ce qui me déplaît le plus dans mon apparence physique, c'est mon ventre. Parce que ça fait 2 ans que j'ai pris un coach sportif pour obtenir des abdos.
Ah ouais?
Et que j'ai toujours des plis dans lesquels je peux cacher des crayons. Et je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse parce que je me prive de toutes les gourmandises, de toutes les joies de vivre.
Et donc, un vrai régime, donc.
Voilà. Non, je fais des squats, des pompes, des abdos, et là que je fais des exercices.
Ça se voit, ça se voit. C'est... Non, non, vous avez une plastique de rêve, j'arrive, bien
laisse,
sûr.
Là, il se moque, le petit, là. Et ce que je n'aime pas chez moi, c'est, dans mon caractère, c'est mon émotivité. Je trouve qu'on utilise souvent mon émotivité pour me rendre plus simplet que je ne le suis vraiment. Souvent, les gens disent « Oh, mais j'arrête, de toute façon, il pleure. » Ben ouais. Moi, je pense qu'un homme qui vit avec ses émotions, il n'a pas peur de pleurer.
Et à force d'aller sur scène, vous n'avez pas réussi, d'une certaine manière, à dompter ses pleurs?
Ah, mais si, je pleure beaucoup moins qu'avant. Ah. Avant, je voyais un enfant, sa mère l'engueulait dans la rue, j'allais voir la mère en disant « Vous savez, vous n'avez pas le droit de faire ça à l'intérieur de lui. » Bon, maintenant, je n'interviens plus déjà. Donc, j'ai quand même vachement évolué, j'ai grandi.
Quelle est votre plus grande phobie?
Les araignées, les serpents.
Ah oui.
Et la saleté.
Et pourtant, vous participez à Fort Boyard, je crois, non?
Je ne fais plus.
Vous le faites plus?
C'est terminé. Terminé.
Fini. Je l'ai dit à Alexia Larouche-Joubert, que j'adore.
La productrice de l'émission.
La productrice de l'émission. Je dis à Alexia, je ne peux pas, pour des raisons de sécurité. Parce que la dernière fois que je suis allé, il y a un scarabée qui m'a piqué.
Ah oui.
Et je l'ai tué, je l'ai écrasé avec mon poing.
Un scarabée, un scorpion.
Un scorpion, pardon. Vous voyez, déjà, je n'arrive pas à les identifier. Et je l'ai écrasé. Et là, le dompteur de scarabée, il faut savoir qu'il y a des dompteurs de scorpions, pardon. Il a très mal pris.
Ah oui. Bah oui, c'est un peu son enfant quand même.
Voilà.
Allez, on termine en chanson. Quelle est la chanson, justement, que vous écoutez en boucle en ce moment?
Je dirais « Il changeait la vie » de Jean-Jacques Goldman.
Ah.
Parce que cette chanson-là, pendant des années, quand je l'écoutais, que j'étais petit, je me disais « Je sais qu'un jour, je vais le rencontrer. Je vais rencontrer cette personne qui change la vie. » Et je le dis dans mon spectacle, je dis « En fait, ce n'est pas une personne qui a changé ma vie, c'est vraiment le public. »
T'es dit. Voilà. Il est 70 ans de Goldman, en plus, en ce moment, ces jours-ci.
Ben ouais, mais je l'aime, Jean-Jacques Goldman, je le dis, je ne l'ai jamais rencontré, je ne sais pas si j'ai envie de le rencontrer, tellement je l'aime et j'aime bien l'image que j'ai de ce monsieur qui est pour moi un artiste avec un grand A.
Merci Jarry,
merci
d'être venu dans le buzz. Je rappelle, à tes côtés, c'est ce lundi soir en prime time sur TF1.
S'il vous plaît.
On regardera.
Le message,
on regardera.
Pourquoi faut aller voir? Vite.
Ben, le message, je pense qu'il faut le regarder parce que c'est peut-être la seule fois où vous allez me voir dans un téléfilm sur TF1, avant de nombreuses années. Non, mais regardez-le parce que vous allez voir, ça va vous faire du bien. Il y a deux parties, une première partie, puis la deuxième qui envoie du lourd. Et puis dire aux gens que pour moi, c'est très intime et que je ne peux pas dire autrement aux gens de s'aimer qu'au travers de ce film.
À tes côtés ce soir sur TF1 et demain, un nouvel invité,
oui,
Buzz.
On se retrouvera avec un autre humoriste aujourd'hui. C'est le thème de l'humour, effectivement, sur le plateau du Buzz TV. Il officie dans Quotidien sur TMC avec une petite chronique assez sympa. Et puis, il vient nous présenter un livre qui s'appelle « Pourquoi vous faisiez ça ?». Demain, nous allons recevoir Pablo Mira.
Pablo Mira.
Vous n'étiez pas loin. Pablo Mira,
effectivement. Je l'adore, j'ai lu son livre.
Ah, il est génial.
Très mal écrit.
J'en suis... Il n'est pas très compliqué à lire. On en parlera demain, mais il est très, très bien.
Merci, Jarry, et portez-vous bien.
Vous aussi.